Bonjour, on va parler du mystère du monde quantique autour, avec Mathieu Burnia, moi-même, autour d'une bande dessinée qui justement s'intitule « Le mystère du monde quantique ». Quel est le mystère du monde quantique? Il part d'un décalage énorme qui est que la physique quantique, en fait, elle existe partout autour de nous. Par exemple, la lumière du soleil que Mathieu est en train de dessiner en temps réel, est dû à un phénomène quantique d'interaction de particules au centre du Soleil, un phénomène qui n'est pas explicable par la physique classique. Le fait que certaines particules qui se repoussent puissent tout de même réagir entre elles. Donc, tous les jours, quand on voit la lumière du Soleil, on pourrait penser à le mystère quantique qui est déjà là. Mais en fait, il est là dans des choses beaucoup plus simples. Le fait que vous êtes tous assis sur des chaises et la résistance mécanique d'une chaise au poids du corps est en fait due à des interactions des nuages électroniques quantiques des atomes dans la chaise et des atomes dans votre corps. Donc c'est aussi quelque chose d'aussi simple de la vie de tous les jours et d'origine quantique. Mais plus profondément, toute la vie et toute la chimie, et donc ici on voit la chimie de la vie avec l'ADN, n'existe et n'a la stabilité qui permet la vie et la reproducibilité de la vie et l'ADN grâce en fait au monde quantique, au fait qu'il y a des choses qui sont stables. Et puis, si aujourd'hui ou ce soir vous écoutez un disque laser, un CD ou regarder un DVD, il faut penser aussi que le phénomène laser est un phénomène qui est purement d'origine quantique. Donc notre vie de tous les jours est essentiellement fondée sur le monde quantique. Et bien sûr, si vous avez un ordinateur ou un smartphone, toute la physique du solide qui fait marcher la physique des semi-conducteurs qui fait que notre technologie existe, des ordinateurs et des smartphones, est d'origine quantique. Donc tout le monde sait ça, tout le monde est d'accord pour dire que en fait, la physique quantique est au fondement de toute la vie qui nous entoure, depuis le soleil jusqu'à la technologie moderne. Et la physique quantique, sa formulation mathématique a été finalisée en 1925. Donc on pourrait croire que tout le monde est d'accord et que c'est quelque chose de vieux qui est utilisé dans la technologie. Et donc on sait très bien, tout le monde est d'accord sur ce que veut dire la physique quantique. Eh bien, en fait, non. Il reste un mystère, ou tout au moins les gens ne sont pas d'accord sur l'interprétation du monde quantique. Alors pour bien comprendre, on va faire une courte, avec Mathieu, introduction au monde quantique. Rappelons un phénomène simple qui est celui des interférences d'ondes. Si vous avez, on est ici à Nantes, donc la mer est juste à côté, si vous avez une digue face à une houle marine, vous avez des oscillations qui viennent ici de la gauche, pour vous aussi, donc des vagues qui arrivent de la mer, et ces vagues rencontrent la digue et elles vont passer par deux trous dans la digue, et chacun de ces trous dans la digue vont réémettre un système d'ondes là où il y a le trou. Et un phénomène caractéristique des ondes, c'est que les ondes réémises par ces deux trous vont se propager derrière les trous et vont se superposer. Dans la partie derrière la digue, vous allez avoir des endroits où deux ondes arrivent avec les crêtes qui arrivent en même temps. Donc du coup, deux ondes se superposent. Là où les deux crêtes se superposent, vous avez une onde plus intense. Et si vous avez une crête qui se superpose à un creux de l'onde, en revanche, les deux ondes vont se détruire. Et donc derrière la digue, à un endroit, dans une ligne, vous allez avoir des endroits où l'oscillation due à la combinaison des ondes qui sont passées par les deux trous dans la digue sont très fortes, et d'autres où elle est nulle. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'interférence d'une onde. Ici, une onde classique, une onde au sens d'une onde à la surface de l'eau. On rappelle ça parce que ce phénomène-là d'interférence a été considéré pendant longtemps comme la preuve que la lumière est une onde, puisque il était connu depuis le début du 19e siècle que si vous envoyez de la lumière sur un écran, alors ça empêcherait la lumière de passer, mais si vous avez deux fentes dans cet écran, comme les deux trous dans la digue d'avant, la lumière va passer par les deux fentes, va être réémise par chacune des fentes, et derrière ces deux fentes, la lumière se recombine, mais maintenant, il y a de la lumière qui est passée par les deux trous, et quand vous regardez l'intensité sur un écran derrière, vous allez voir les mêmes choses qu'on avait vues pour la houle marine, c'est-à-dire des endroits où l'intensité lumineuse est deux fois, ou en fait quatre fois plus importante, et d'autres où elle s'annule. C'est-à-dire lumière plus lumière peut donner ombre, absence de lumière, ou au contraire plus de lumière. Et ce phénomène du fait que la lumière passant par deux trous se recombine, au XIXe siècle, une fois qu'il avait été découvert par un Anglais, Young et Fresnel, un Français, on a conclu que la lumière était une onde. Mais on s'est aperçu au XXe siècle que chaque objet quantique, comme la lumière ou les particules, ont en fait une nature mystérieuse. Parce que si, au lieu d'envoyer maintenant une onde lumineuse sur deux fentes, vous envoyez des électrons. Les électrons, quand ils ont été découverts à la fin du XIXe siècle, on pensait que c'était des petites particules, comme des petites billes. Et donc, on pourrait penser que si on envoie une petite bille dans deux fentes, soit la bille va passer à gauche, soit elle va passer à droite, et après, elle va frapper l'écran au fond, mais il ne va pas y avoir interférence parce qu'il n'y a pas une onde qui passe par les deux fentes et qui va pouvoir se superposer en donnant plus d'électrons ou moins d'électrons. Il y en a la moitié qui vont passer à gauche et la moitié qui vont passer à droite. Eh bien non, quand vous faites l'expérience, ça a été découvert après la prédiction théorique d'ailleurs en 1927, expérimentalement, vous envoyez des électrons sur deux fentes. Derrière l'écran, les électrons arrivent un par un, donc ça correspond bien à l'idée qu'on se fait qu'un électron c'est une particule, comme une petite bille. Il y a bien un caractère corpusculaire de l'électron, mais les électrons arrivent de façon aléatoire sur l'écran, mais au bout d'un moment, vous voyez que les électrons, l'arrivée des électrons se condense sur certaines lignes. Il y a des lignes où les électrons arrivent plus, il y a des lignes où les électrons n'arrivent pas du tout, et entre les deux, vous avez une situation intermédiaire. Et au bout d'un moment, ça recrée les mêmes figures d'interférence que pour la lumière, c'est-à-dire comme si derrière l'électron considéré comme particule, il y avait une onde qui allait décider où est-ce qu'il est plus naturel que l'électron se retrouve. Donc ici, vous avez le phénomène qui résume tout le monde quantique, c'est-à-dire un objet, l'électron, est à la fois une particule, il y a un aspect ondulatoire, il y a un aspect aléatoire, parce qu'à chaque moment, il y a un impact de l'électron et on ne sait pas à l'avance où il arrivera. Et puis, il y a un aspect non local, parce que le fait qu'il y ait des franges d'interférence veut dire que l'électron qui arrive, en un sens, il sait qu'il est passé par les deux trous à la fois. Donc, cette situation, qui est un fait expérimental, a conduit divers théoriciens à penser le monde quantique différemment. Par exemple, un des découvreurs d'un des aspects mathématiques de la description du monde quantique, Schrödinger, que vous allez voir apparaître à gauche, considérait qu'il fallait que tous les objets quantiques, comme l'électron, soient des ondes purement, plus des corpuscules. Il a dit « Non, non, je ne comprends pas quand je mêle ondes et corpuscules ». Donc, je fais l'hypothèse que toutes les particules quantiques sont en fait des ondes et Schrödinger a écrit une équation qui décrit la propagation de cette onde, qui est une équation qui est semblable à l'équation qui décrirait la propagation d'une onde lumineuse, par exemple. Mais Schrödinger a dit ça, mais ensuite, d'autres scientifiques, dans les années 20, ont dit « Non, il manque quelque chose à l'onde de Schrödinger. » En particulier, on va voir apparaître Max Born qui a dit il y a le côté aléatoire puisque je veux bien qu'il y ait des ondes mais quand je mets un détecteur à électrons en fait il voit arriver des particules, il voit arriver un impact d'un électron à tel endroit, à tel moment et donc il y a quelque chose d'aléatoire comme symbolisé par le dé et donc il faut considérer que l'onde dont parle Schrödinger n'est pas une vraie onde réelle mais c'est une onde de probabilité. En ce sens que le mouvement des particules suit des lois de probabilité, mais la probabilité elle-même se propage comme une onde selon une loi de causalité. Alors du coup, il y avait quelque chose de pas très clair. Quel est le mélange entre causalité et probabilité, puisque la borne nous dit qu'il faut mettre les deux ensemble sans expliquer comment les réconcilier. Et à peu près à la même époque, un peu après, Werner Heisenberg, en utilisant le formalisme mathématique en fait, de la mécanique quantique, a dit « Oui, mais dans ce formalisme, il y a quelque chose qui représente la position d'une particule et quelque chose qui représente la vitesse, ou ce qu'on appelle l'impulsion, le produit de la masse par la vitesse de cette particule. Et je trouve une inégalité qui fait que je ne peux pas mesurer avec grande précision à la fois la position et l'impulsion, la vitesse. Si je connais la position avec grande précision, la vitesse est très mal connue. Et réciproquement, si je connais la vitesse avec grande précision, la position est très mal connue. Un peu comme si le côté particule, position, était présent, mais limité par le côté onde. Et cette idée qu'il fallait peut-être deux images des particules a été amplifiée par Niels Bohr, qui a introduit un mot, tout au moins, le concept associé étant assez obscur pour la plupart des gens, à part Niels Bohr lui-même. Même Niels Bohr disait que, en fait, les idées profondes devaient rester obscures, en tout cas les siennes sont restées obscures, en disant qu'il y a une complémentarité dont un exemple particulier est le fait que l'objet quantique n'est ni une particule ni une onde, mais un aspect est un aspect corpusculaire et un autre aspect est un aspect ondulatoire, et il faut de temps en temps décrire un objet comme une particule et de temps en temps comme une onde, mais pas les deux à la fois. Toutes ces discussions de Schrödinger, Born, Heisenberg et Bohr n'ont pas convaincu l'autre très grand créateur de la réalité quantique, qui était Einstein, puisque on a tendance à considérer que Einstein est l'inventeur des deux théories de la relativité restreinte et la relativité générale. Et il y a une légende qui dit qu'à la fin de sa vie, Einstein a rejeté la physique quantique parce que c'était un dinosaure qui refusait le progrès de la science. Il ne comprenait pas la nécessité de devoir introduire une description quantique de la réalité. Ça, c'est oublier que c'est Einstein lui-même, en fait, qui a introduit les concepts les plus révolutionnaires de la physique quantique dès 1905. C'est-à-dire, Planck avait introduit quelque chose qui va mener au monde quantique, mais Planck n'avait pas compris le monde qu'il créait, alors que c'est Einstein qui a compris vraiment le monde quantique dès 1905, 1906, avec le concept de la lumière étant à la fois une onde et une particule. C'est lui qui a introduit les probabilités dans la physique quantique, donc il connaissait en fait très bien la physique quantique, mais il a découvert des aspects inacceptables pour lui de la description du monde quantique tel que nous le montrent les équations de Schrödinger et d'Heisenberg. En particulier, il a remarqué que si vous croyez à la description mathématique du monde quantique, eh bien le monde autour de nous devrait être complètement flou, parce qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, le monde quantique c'est le monde des particules, des atomes, et puis quand vous arrivez au monde des objets macroscopiques comme nous, c'est autre chose, c'est la physique classique de Newton, et il n'y a pas de problème. Voilà, il y a le monde classique et le monde quantique. Et pour Einstein, c'était inacceptable, parce que la physique doit être une, elle doit expliquer les choses avec une clarté logique. Et si vous prenez les équations du monde quantique, vous apercevez que le monde devrait être flou. Et c'est lui le premier qui a montré aussi que, du coup, des objets du monde macroscopique pourraient être dans des superpositions d'états incompatibles. Par exemple, il avait donné un exemple avant qui a été repris par Schrödinger, ça s'appelle le chat de Schrödinger. Si vous mettez un chat dans une boîte et que dans cette boîte il y a aussi un dispositif qui peut lâcher un gaz mortel, mais le dispositif qui va lâcher ou ne pas lâcher le gaz pendant les 3 minutes qui suivent la mise du chat dans la boîte est un processus d'origine microscopique, quantique. Et donc il est censé être aléatoire d'après la description habituelle du monde quantique. Ce qui veut dire qu'au bout de 3 minutes, il y a une chance sur deux que le gaz ait été lâché ou pas. Et du coup, d'après le formalisme de la mécanique quantique, le chat est dans une superposition d'un chat vivant et d'un chat mort, 50-50. C'est-à-dire le chat devrait nous apparaître moitié mort, moitié vivant. Or, ça n'est pas ça que l'on voit. Et donc, Einstein a insisté, il y a un problème, donc ce n'était pas un vieux dinosaure qui refusait le progrès, il disait, il faut clarifier le sens physique du réel quantique. Et cette clarification, il en a parlé en particulier dans le dernier séminaire qu'a donné Einstein, juste un an avant sa mort, le 14 avril 1954, à l'université de Princeton. Einstein a donné le dernier séminaire de sa vie. Et ce séminaire était sur le monde quantique, en fait, et il a donné l'exemple d'une particule dans une boîte en disant, au début, la particule, je sais où elle est, je peux la mettre dans un état quantique où je la vois, mais si j'attends suffisamment, au bout d'un moment, la particule sera floue n'importe où dans la boîte. Or, ce n'est pas ça que j'observe. Quand je regarde autour de moi, tous les objets du monde habituel sont dans un état bien déterminé, à gauche ou à droite. Et donc, il a prononcé cette phrase, parce que dans la mécanique quantique, on dit ce qui fait qu'on voit les choses, c'est qu'il y a un observateur qui les regarde en général. Ça fait partie de l'interprétation habituelle de la mécanique quantique. Et Einstein a prononcé la phrase suivante, il est difficile de croire que cette description donnée par la physique quantique est complète. Elle semble rendre le monde nébuleux, à moins que quelqu'un, comme une souris, vous remarquerez au passage que pour Einstein, quelqu'un, ça peut être une souris, donc quelqu'un, comme une souris, ne le regarde. Et il pose la dernière question, est-il croyable que le regard d'une souris puisse changer considérablement l'univers ? Et cette phrase, c'est-à-dire que la Lune était floue avant que la souris la regarde, et quand la souris la regarde, la Lune devient à une position bien précise sur le ciel. On sait qu'Einstein a prononcé cette phrase parce qu'il y avait un jeune physicien américain qui avait 25 ans, qui s'appelait Hugh Everett, qui a écouté cette conférence d'Einstein. Et à notre avis, c'est ça qui a donné à Hugh Everett l'énergie, parce que c'est le grand Einstein posait une question, il y a quelque chose à comprendre. Eh bien, Everett s'est embarqué dans le principe de comprendre la réalité quantique. Et toute la BD est faite pour expliquer cette compréhension qui est, à mon avis, la seule bonne façon de penser la réalité quantique, mais qui est vertigineuse. Alors, pour expliquer le vertige de la description du monde quantique suggérée par Everett, il n'y a pas une seule équation dans la BD, mais il faut justement expliquer en termes graphiques ce qu'est un nombre complexe. Un nombre complexe, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des maths pour lire la BD, un nombre complexe, mathématiquement, c'est représenté par un point dans le plan. Et un point dans le plan, avec une origine, c'est équivalent à une petite flèche à partir de l'origine du plan, d'un plan à deux dimensions. Et pour repérer une flèche, il vous faut deux choses. Il faut un angle qui donne l'angle de cette flèche avec l'horizontale et il faut la longueur de la flèche. Donc pour repérer un nombre complexe, il faut se donner un angle et une longueur. Et la convention avec Mathieu qu'on utilise dans la BD est de représenter une flèche dans le plan par une couleur en utilisant deux informations de la couleur, la nuance de couleur et l'intensité de la couleur. Donc les nuances de couleur, rouge, orangé, jaune, vert, bleu, pourpre, violet, rouge, vous voyez, ça fait un cercle en fait. Vous pouvez mettre les nuances de couleur pour définir un cercle, puisque le violet, le pourpre revient vers le rouge. Donc là, vous avez un cercle naturel. Donc toutes les couleurs définissent un angle. Et après, si vous prenez vraiment une tache de couleur, elle peut être plus ou moins intense. Donc ça définit l'intensité de la couleur. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir représenter un nombre complexe associé à un état de la réalité. Puisque la mécanique quantique, en fait, nous dit que ce qu'est la réalité quantique, ça n'est pas des objets classiques qui sont là, mais à chaque configuration classique, il faut associer un nombre complexe. Et c'est là où le graphisme joue un rôle essentiel. Et donc, du coup, le prochain dessin va expliquer, là, voilà, nous, on arrive au point central. Maintenant, vous allez comprendre la physique quantique, d'un coup. Si vous n'avez pas tout compris, vous achèterez la BD pour revoir. Ici, on va donner l'exemple du chat de Schrödinger. vous avez, dont je parlais auparavant, donc vous avez une boîte, dans cette boîte, vous avez un mécanisme qui, après 3 minutes, peut lâcher ou ne pas lâcher un gaz mortel. Eh bien, la mécanique quantique nous dit qu'après 3 minutes, l'état de réalité du chat dans la boîte, y compris tout ce qui est dans la boîte, y compris l'air qui est dans la boîte, le gaz, etc., doit être considéré comme étant dans une superposition de deux états à la fois. Mais cette superposition, elle est donnée par deux poids, c'est-à-dire c'est la surimpression de deux réalités, chaque réalité ayant un certain poids donné par un nombre complexe. Mais un nombre complexe, on vient de dire que c'est donné par une couleur avec une intensité et une nuance et une intensité. Après 3 minutes, comme il y a une chance sur deux que le chat soit mort ou soit vivant, il faut considérer qu'il va y avoir deux nuances de couleurs différentes, le chat bleu qui est encore vivant, et avec la même intensité mais une autre couleur, parce que c'est un autre nombre complexe, Mathieu est en train de dessiner le chat rouge qui est mort. Bien. Mais vous voyez que le dessin, la bande dessinée, permet ici de représenter cette réalité. C'est-à-dire la vraie réalité, c'est ça. C'est le dessin des deux à la fois. Et les gens savaient ça avant Everett, mais justement, ils disaient, mais c'est absurde parce qu'on ne voit pas ça. Donc, ça ne peut pas être ça, la réalité. Et l'idée géniale d'Everett est de dire, oui, mais en fait, qui dit que ça n'est pas ça? Si vous dites que je ne vois pas ça, il faut introduire quelqu'un qui regarde le chat. Et quelqu'un que Mathieu est en train de dessiner, c'est notre héros, le héros de la BD, Bob, le détective qui va essayer de résoudre avec son chien, parce que dans la BD, le chat est remplacé par un chien, d'ailleurs, mais enfin, il ne faut pas dire la fin de la BD, d'ailleurs, ça se finit très bien, n'ayez pas peur. On a deux détectives, Bob et son chien Rick, et donc, en fait, la description quantique de la réalité du chat Schrödinger, c'est que vous avez Bob bleu qui voit le chat vivant bleu. Ça, c'est un élément de la superposition. Et il y a un autre Bob, qui est une superposition de Bob dans un autre état, qui, lui, va être un Bob rouge, qui va voir le chat mort. Et que la mécanique quantique nous dit la réalité, c'est la superposition des deux, c'est-à-dire que c'est pas deux dessins comme ça mis en décalque l'un sur l'autre. La réalité, c'est la somme des deux dessins. De ce point de vue-là, on peut dire que la meilleure façon de penser la réalité quantique, c'est une technique cinématographique qui s'appelle la surimpression. Par exemple, vous vous souvenez peut-être du film d'Alain Resnais, Smoking, No Smoking. C'est un film où, un film dont il existe plusieurs versions, puisque dans certaines versions, bon, il fume, dans d'autres, il ne fume pas. Mais dans la même version, en fait, quand quelqu'un pose une question, on répond parfois si ou parfois ça, et du coup, l'histoire branche sur quelque chose d'autre. Donc, dans le film d'Alain Resnais, il y a plusieurs films, il y a plusieurs histoires possibles. Et on les représente linéairement, c'est-à-dire il y a un film qui représente une histoire A, puis un film qui représente une histoire B. Eh bien, mais avec les techniques cinématographiques, vous pouvez imaginer que vous surimpressionnez sur la même pellicule les deux histoires en même temps. Et donc, et non seulement deux, mais plusieurs histoires, un très grand nombre d'histoires. Donc, sur l'écran de cinéma, vous, d'ailleurs, on pourrait essayer ici aux Utopiales un jour de faire un film comme ça pour voir. Sur l'écran de cinéma, vous aurez donc une espèce de brouillamini de plusieurs histoires à la fois, donc du flou. Mais il faut penser que dans ces films surimpressionnés, il y a des personnages qui appartiennent à des couches, des sous-couches du film, et eux ne sont conscients que de la sous-couche à laquelle ils appartiennent. C'est-à-dire ils sont conscients de ce qui s'est passé dans cette sous-couche de l'histoire, etc. Donc vous voyez qu'à l'intérieur des sous-films, les gens ne voient qu'une seule réalité. Parce que c'est ça l'idée d'Everett. L'idée d'Everett, c'est que Bob bleu ne voit que le chat bleu et Bob rouge ne le voit que le chat rouge. La réalité est la superposition des deux, mais il a démontré mathématiquement que tout se passe comme si chaque morceau de la sous-réalité quantique n'était pas consciente des autres morceaux. Mais ça veut dire que la vraie réalité quantique est une superposition à l'infini. Et cette superposition existe au niveau cosmologique, qui va être la dernière image que l'on va présenter. Donc ici, oui, ici vous avez tous nos personnages qui sont embarqués dans la mer furieuse des ondes quantiques à la recherche de la réalité quantique. Il y a Einstein, il y a Schrödinger, il y a Planck, il y a Heisenberg, il y a Bohr. Mais rassurez-vous, ils n'écrivent pas d'équations. Et il y a à l'avant du bateau, il y a nos deux détectives, Bob à la tête rondouillarde et son chien Rick. Et ici, ils sont représentés comme à la fin de la BD, ayant découvert le fait que l'univers total, parce que contrairement à ce que l'on dit toujours, où on dit le monde quantique, je l'ai déjà dit mais je le répète, c'est quelque chose qui concerne le monde des atomes, il y a du flou à l'intérieur des atomes, mais à notre niveau ici, il n'y a pas de flou. Je vois un monsieur ici avec un t-shirt rouge, ici une jeune femme avec des lunettes qui me regarde, des longs cheveux, je n'en vois qu'une, je ne vois pas un flou terrible. Eh bien, la physique nous dit, la réalité, en fait, au niveau macroscopique et même cosmologique, par exemple, les galaxies ne sont pas dans un seul état, mais il y a des superpositions de la même galaxie qui existe dans plusieurs états. Alors, pour beaucoup de gens, y compris beaucoup de physiciens, peut-être d'ailleurs plus de physiciens que des gens non physiciens, cette idée vertigineuse que l'univers cosmologique puisse être dans des superpositions de réalités différentes est trop absurde pour être acceptable. Parce qu'on dit non, c'est trop contraire au sens commun. Et du coup, quand Hugh Everett, en 1957, a proposé cette idée, ceux qui ont compris l'idée d'Everett, beaucoup l'ont rejetée en disant c'est absurde, je veux dire, on ne va pas croire ça. Et où son idée a été châtrée, c'est d'ailleurs on l'a ramenée à des questions d'équation sans la prendre vraiment au sérieux. Et on pourrait dire, vous pourriez dire que là je suis en train de dire n'importe quoi aussi, que je suis un illuminé et pas un vrai scientifique de dire ça. Je ne suis pas là pour montrer mes crédits scientifiques, mais j'en ai certains, ne vous inquiétez pas. Je suis sérieux, et Mathieu aussi, nous sommes sérieux avec Mathieu pour dire c'est ça le réel quantique. Et le fait que cette idée viole le sens commun, parce que ça viole le sens commun, puisque dans la vie de tous les jours, on ne voit pas ces superpositions. D'abord, mathématiquement, Everett a montré comment résoudre la question, c'est-à-dire à l'intérieur du formalisme de mécanique quantique, vous démontrez que chaque copie de nous-mêmes n'est pas consciente des autres copies, donc il n'y a pas de problème. Mais il reste le problème d'accepter cette image de la réalité. Et le dernier point que je veux faire, c'est qu'en fait, toute l'histoire de la physique va dans le sens de violer très profondément le sens commun. Il y a plus de 2000 ans, les Grecs avaient proposé, en fait c'était Aristarque de Samos, quelque chose comme 400 ans avant Jésus-Christ, avait proposé que la Terre était en mouvement, à la fois sur elle-même, en rotation, et autour du Soleil. Mais beaucoup de Grecs, qui connaissaient déjà la taille du système solaire, avaient calculé que si la Terre se déplace autour du Soleil, ça voudrait dire que nous sommes actuellement, nous tous, en train de nous déplacer à plus de 100 000 km/h. Et pour un Grec, mais aussi pour un Nantais, aller à 100 000 km/h, c'est absurde. Je veux dire, si vous êtes sur votre mobylette à 20 km/h, vous voyez déjà les choses bouger dans tous les sens. Donc, on a l'impression que c'est une violation profonde du sens commun de dire que nous nous déplaçons à 100 000 km/h. Et il a fallu développer une nouvelle physique, qui a été développée par Galilée, pour dire, eh bien, nous ne nous rendons pas compte de ce mouvement. C'est-à-dire, il est vrai que nous nous déplaçons là, à 100 000 km/h, et même, en fait, à 1 million de km/h, quand vous tenez en compte du mouvement de la galaxie dans l'univers, mais c'est quelque chose que la physique explique comme étant non visible. Il y a aussi un autre progrès de la physique qui concerne le temps. Einstein, en 1905, a montré que l'écoulement du temps, le passage du temps, le fait que hier n'existe plus, que demain n'existe pas encore, que seul le présent existe et qu'il y a quelque chose qui passe, que ça c'était une illusion, que en fait le temps n'existe pas, qu'il n'y a pas de passage du temps. Là aussi on pourrait dire mais c'est totalement absurde, puisque évidemment je me rends compte que je vis. Remarquez, psychologiquement, je pense que si vous faites vraiment une introspection à la Proust, vous ne retrouvez pas le temps. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le temps est une illusion. Mais enfin, il y a tout de même des traces du temps. Et là aussi, la physique explique que, en fait, dans la réalité, de la relativité, il n'y a pas de temps, mais à cause d'une certaine caractéristique qui s'appelle le second principe de la thermodynamique, vous avez l'illusion que le temps s'écoule, mais il pourrait s'écouler différemment dans d'autres régions de l'univers. Bien. Donc vous voyez que le mouvement de la Terre, le temps, la relativité, la physique quantique et les idées d'Everett ne sont que la continuation du fait que l'image de la réalité que nous donne la physique, la science, est une image beaucoup plus riche que ce que l'on pense habituellement avec le sens commun. Elle viole profondément le sens commun, mais c'est ça, nous dit la réalité. La vraie réalité de la science est encore plus extraordinaire que tout ce que l'on imagine en général dans la science-fiction. Sauf que certains auteurs de science-fiction, comme Philip K. Dick, dont on parlera d'ailleurs ici à 19h, j'ai l'impression, ont pris ça au sérieux. C'est-à-dire qu'ils considéraient que la science avait un message philosophique important. Et c'est aussi le but de cette BD, c'est donc de vous donner accès à tout le monde sans équation au sens philosophique de la réalité quantique. Voilà. Merci pour votre attention. Il n'y a pas de questions, je pense. Oui, il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Si. Il y a des micros pour les questions ? Il y a un micro qui arrive.
Bonjour. Je voulais savoir si vous avez été inspiré par Gamow et son ouvrage Le Monde de Monsieur Tompkins pour essayer de rendre compte au grand public des théories de la physique quantique.
Bonne question. J'aime beaucoup les ouvrages de Gamow, effectivement, qui sont très intéressants. Même si Gamow, en fait, donne une idée de la physique quantique qui est compatible avec ce que disaient Born et Heisenberg. En fait, il est dans une interprétation qui n'est... Gamow, pourtant, est mort après Everett, mais jamais il ne parle de l'interprétation d'Everett. Donc, ici, on a essayé d'aller au-delà de Gamow. Mais ses livres sont tout à fait intéressants à lire.
Bonjour. Voilà, je voudrais vous présenter deux images qui me sont venues à l'idée lorsque vous avez parlé. La première image, c'est celle que nous ressentons au quotidien, c'est-à-dire le fait d'imaginer des choses à chaque fois que nous sommes confrontés à une réalité. Et la deuxième, c'est les différentes dimensions qui sont possibles à chaque fois qu'il y a un choix. Je voulais savoir, selon vous, laquelle de ces deux images serait la plus représentative de la physique quantique ?
Je prendrais plutôt le choix, c'est-à-dire si vous hésitez pour un choix, même un choix de savoir quel vêtement vous allez porter ce jour, et si l'hésitation venait vraiment d'un phénomène quantique, ce qui n'est pas clair, de savoir, bon, le cerveau fonctionne grâce à des phénomènes quantiques, donc il y a certains choix qui doivent être d'origine quantique, mais pas tous, parce qu'il faut être sûr que ça vient d'origine quantique. Eh bien, l'exemple du choix est une bonne façon de penser les choses, c'est-à-dire si après le choix vous avez choisi quelque chose, en fait, vous êtes dans une superposition de deux réalités différentes, mais la personne qui a choisi tel objet ou tel autre n'est pas consciente de l'autre choix. Donc, ce que nous dit vraiment la physique quantique, c'est que la réalité est devenue plus riche, et donc les deux choix ont été réalisés et coexistent, mais ne sont pas conscients l'un de l'autre.
Oui, Merci pour cette magnifique conférence. J'ai une question. Il me semble qu'en physique, il y a toujours ce dialogue entre l'expérimentation et les équations. Alors, est-ce que vous avez commencé à imaginer des processus expérimentaux pour prouver ces multiples réalités à l'échelle macroscopique, de la même mesure que le CERN rend à illustrer les équations pour la physique des particules? Est-ce qu'il y a des projets ambitieux de ce côté-là?
Très bonne question. En fait, la réponse, c'est que ça a déjà été fait. En fait, l'avant-dernier prix Nobel attribué à un Français, le dernier prix Nobel attribué à un physicien français, à Serge Haroche. Voilà. Serge Haroche, de l'équipe du laboratoire Kassler-Brossel à l'École normale supérieure à Paris, a eu le prix Nobel avec son équipe pour justement une manip où vous aviez dans son laboratoire un objet de taille macroscopique qui avait en gros un mètre de haut, qui était une cavité en métal supraconductrice, et il a démontré qu'on pouvait mettre dans cette cavité l'état de la lumière. Il y avait de la lumière, l'objet quantique dont on parlait, c'est la lumière à l'intérieur de cette cavité, et bien la lumière était dans une superposition de deux états macroscopiquement différents. Et il a prouvé ça en faisant passer un atome qui sondait, qui passait à travers la cavité, et qui a montré qu'effectivement, bien que ça soit des choses macroscopiquement, de taille macroscopique et macroscopiquement différents, il y a bien eu cette superposition, mais en même temps, il a vérifié que assez rapidement, comme on dit en anglais, for all practical purposes, c'est-à-dire à toute fin pratique, le fait qu'il y avait donc il a prouvé qu'il y avait une superposition de réalités, mais que cette superposition de deux réalités devenait incohérente l'une avec l'autre très rapidement, ce qui fait qu'elles vivaient l'une indépendamment de l'autre, comme si l'autre n'existait pas. C'est-à-dire cette manip a à la fois prouvé la superposition au niveau macroscopique et le fait qu'utilisait Everett, que quand c'est au niveau macroscopique, ces superpositions, chaque morceau de la superposition ne se rend pas compte du reste. Voilà. Mais donc, ça a été important et ça a donné un prix Nobel. Et donc, ça a bien vérifié que le monde quantique va au niveau macroscopique, que les superpositions existent, qui est effectivement un point crucial, au niveau macroscopique.
Bonjour, je voulais savoir si dans votre bande dessinée, vous parliez de synchronicité, parce que je l'entends souvent évoquer, mais finalement pas en conférence. Et j'ai l'impression que le côté scientifique évacue cette histoire de synchronicité et qui me semble être, enfin, parce que c'est très flou pour moi, une sorte de conscience de l'état quantique du monde.
La synchronicité, au sens de Jung, donc Carl Gustav Jung, a été un sujet de discussion important entre Carl Gustav Jung et un des créateurs de la physique quantique, qui n'apparaît pas dans la BD parce qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde, qui était Wolfgang Pauli. Donc Pauli était prêt effectivement à considérer que peut-être la physique quantique pourrait aider du côté de la synchronicité. Personnellement, je n'ai pas réfléchi à la question. Ça ne joue pas un rôle important ici. Peut-être je devrais relire Jung et Pauli. D'abord, vous savez que Pauli, en fait, était traité psychiatriquement par une élève de Jung, et que certains des rêves de Pauli apparaissent dans des traités de psychologie jungienne. Pauli était quelqu'un qui avait l'esprit très ouvert et qui était prêt à considérer que notre ouverture à la réalité était plus riche, en tout cas, que ce que l'on dit d'habitude.
Oui, cette conscience quantique ne rejoint-elle pas, au fond, ce que les bouddhistes appellent l'illumination ou Nietzsche, le grand midi?
On veut rester neutre, bien sûr. C'est-à-dire, chacun. Le but de cette BD et de tous les ouvrages de vulgarisation de la science est de donner accès, en termes compréhensibles, à ce que dit la science du réel. Après, à chacun de se faire sa propre philosophie. J'ai toujours fait très attention dans mes livres. Par exemple, demain, je dois discuter avec Roland Lehoucq sur les voyages dans le temps, Einstein, la relativité, à 11h au même endroit. Et j'ai une propre vision métaphysique de la réalité qui n'est pas très loin du bouddhisme et plus proche en fait de l'Advaita Vedanta, mais ça je ne veux pas, ça c'est personnel et ça c'est le choix personnel. Ici c'est objectif, la physique quantique, ça paraît fou de dire ça, hein, que la physique quantique c'est super, mais c'est un fait, voilà, c'est un fait mathématique. Après à chacun de vivre ou d'amplifier sa vie en utilisant la beauté de cette science-là. Après tout, la physique du XXe siècle est beaucoup plus belle par son vertige à la fois du temps et de la réalité que la physique du XIXe siècle, qui était une physique matérialiste désespérante, où il n'y avait que la matière et la deuxième loi de la thermodynamique, et la mort, donc la matière et la mort. On ne vous entend pas.
Pardon, vous essayez d'expliquer, en gros, la mécanique quantique ou la physique quantique et un état quantique, et comment on arrive aux observables qu'on peut voir dans la physique, on va dire, classique ou, est-ce que vous avez une interprétation par rapport au modèle standard où on a une unification de certaines forces qui sont... comment dire, qu'on arrive à expliquer au niveau de la mécanique quantique et le côté mécanique classique avec la force gravitationnelle qui reste encore dans la limite du modèle standard. Est-ce que vous avez une
explication ? Là, vous avez posé plusieurs questions à la fois, mais parmi ces questions, la plus centrale à l'exposé est comment on explique le lien à la physique classique. Alors, pour donner... d'abord, en fait, la physique de la gravitation est inclue dans la physique quantique en théorie des cordes. Bon, la théorie des cordes, malheureusement, n'est pas une théorie finie et elle n'explique pas tout. Donc, ça ne donne pas l'explication complète, mais en fait, c'est une théorie quantique qui contient la gravitation. Donc, de ce point de vue-là, il y a déjà une théorie quantique de la gravitation avec certaines limitations. Pour donner une autre image, pour réconcilier l'image du flou quantique avec l'image de la réalité que l'on voit, on peut dire que c'est comme un peu... Si le matin vous écoutez la radio et vous vous branchez sur le canal France Inter ou France Info, quelque chose comme ça, si vous branchez votre appareil radio sur un certain canal, sur une certaine chaîne, vous ne verrez que ça. Donc la seule réalité que vous verrez, c'est les ondes de France Inter ou les ondes de France Info. Mais en fait, on sait... que les ondes coexistent, que nous sommes baignés par toutes ces ondes-là. Mais si vous accordez votre récepteur uniquement à un type d'onde, les autres ondes sont comme si elles n'existaient pas. Vous ne les entendez pas. Ou c'est comme si dans une conversation, dans un cocktail assez bruyant, vous vous concentrez sur la conversation de votre ami, vous faites écran à tout le reste, et au milieu de toutes ces ondes qui se superposent, vous ne voyez qu'une seule conversation. Donc, en fait, c'est ça l'explication. Il y a cette superposition d'ondes, mais à l'intérieur de cette superposition, il y a des sous-morceaux qui s'accordent et qui ne réagissent qu'aux ondes d'un type de fréquence particulier. Voilà. C'est ça, en un mot, que la façon dont Everett explique que la vraie réalité est une superposition, mais il apparaît comme s'il y avait un monde classique.
Bonjour. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette conférence qui était somme toute vraiment sympathique. Je voudrais juste vous demander si vous lisez ou consommez des œuvres de fiction.
Consommez, oui.
Oui. Et du coup, lesquelles vous pourriez conseiller qui se rapprocheraient le plus de la théorie quantique ?
C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je suis amateur de science-fiction, mais pas un amateur très cultivé. Donc, j'ai lu du Philip K. Dick, que j'aime bien. Et certaines œuvres de Philip K. Dick, comme Le Maître du Haut Château, sont en fait clairement des superpositions quantiques. Mais Philip K. Dick était quelqu'un d'assez fin. Et aussi, il y a les voyages dans le temps, il y a Ubik, etc. Donc, il y a beaucoup de choses dans Philip. On sait que Philip K. Dick a étudié la philosophie. Apparemment, il connaissait bien ce qui se passait. Je respecte beaucoup la science-fiction parce que je considère que, vous voyez, beaucoup de scientifiques, si vous leur parlez de la mécanique quantique, ils vous disent « Non, non, c'est des calculs. Fais des calculs et tais-toi. C'est pas important. Everett, c'est n'importe quoi ou ça n'est pas intéressant. » Du coup, la virulence de cette réalité quantique très exceptionnelle est perdue pour beaucoup de scientifiques ou dans les livres scientifiques. Alors que la science-fiction, elle a gardé souvent la virulence des idées de la science. Et donc, je ne connais, à part Philippe K. Dick, je ne connais pas beaucoup d'autres œuvres, je ne sais pas, je serais intéressé, si vous, vous connaissez des œuvres où le monde quantique joue un rôle, je serais intéressé à les connaître. Peut-être ça a été peu exploré.
Bonjour. Je me suis intéressé au Human Brain Project. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet.
C'est quel project, pardon ?
Le Human Brain Project en Suisse, qui est à Lausanne, qui est situé dans les locaux de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet qui a été massivement financé par l'Union européenne à hauteur d'un milliard d'euros, je crois, pour faire de l'ingénierie inversée du cerveau humain. Donc nous on modélise le fonctionnement de neurones, puis ensuite des colonnes neuronales, pour ensuite, ils le veulent, obtenir la simulation d'un cerveau humain sur supercalculateur. Et quand on parle aux neurologues qui travaillent sur le Human Brain Project, quand on parle aux autres scientifiques, quand on leur dit qu'il y aura peut-être, quand on soumet l'idée qu'il y a peut-être une dose de quantique dans le cerveau, mais ce sont des gens qui vous rionnaient. Est-ce que vous pourriez l'expliquer ?
Je comprends pas pourquoi rayonner. J'ai l'esprit ouvert, mais le cerveau est un milieu à une température assez élevée et un système. Il y a des connexions quantiques, tout est quantique dans le cerveau, mais ça baigne dans un milieu à température relativement élevée. Et ça, on sait que ça donne ce qui s'appelle justement le phénomène de décohérence, c'est-à-dire ce que je rappelais dans l'expérience de Serge Haroche. Qui est qu'il y a des superpositions, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'il y a une superposition parce que très rapidement, elle se propage de façon incohérente, ce qu'on appelle la décohérence. A priori, ça devrait agir après des temps infinitésimaux dans le cerveau. Donc, les superpositions quantiques, même s'il y a des choix quantiques au niveau des synapses, devraient évoluer, d'après l'interprétation habituelle de mécanique quantique, de façon quasi indépendante et donc définir des mondes classiques. C'est pareil. Donc il est difficile de penser qu'il y aurait vraiment des superpositions quantiques. C'est pour ça qu'on essaye aujourd'hui, par exemple l'ordinateur quantique, le but c'est de battre la décohérence et donc d'avoir des états quantiques très protégés à température nulle, enfin des sous-morceaux de votre monde quantique qui n'interagissent pas avec l'environnement pour pouvoir garder les superpositions.
Mais c'est pour ça justement que, à votre avis, parce qu'ils n'ont pas encore d'ordinateur quantique avec lequel travailler, que c'est peut-être qui considère que c'était un peu farfelu comme idée.
Non, l'ordinateur quantique n'est pas farfelu parce qu'on sait qu'on peut. Il y a des techniques pour protéger des systèmes qui calculent des choses de façon. Mais le cerveau humain, en revanche, baignant dans un liquide à température élevée, c'est plus difficile d'imaginer qu'il ait vraiment des choses quantiques. Voilà. Mais j'ai garde d'esprit ouvert, même comme ça.
Moi, je voudrais juste savoir, en fait, si l'observateur n'est pas capable de voir la superposition, et comment on fait alors pour montrer expérimentalement qu'il y a vraiment une superposition ? Comment c'est seulement possible, du coup, de mettre en place une expérience ?
Les expériences qui existent, par exemple, dans celle dont je parlais, Serge Haroche, à l'intérieur d'une cavité électromagnétique de taille macroscopique, vous avez deux états du champ électromagnétique. Et pour montrer qu'il y a une superposition de deux états, il faut qu'il y ait effectivement un observateur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui mesure quelque chose. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans la théorie du chat de Schrödinger une souris de Schrödinger. C'est-à-dire quelque chose, une souris qui passe devant le chat pour faire réagir le chat. La souris de Schrödinger, dans ce cas-là, c'est un atome qui passe à travers la cavité et qui interagit fortement. C'est un atome qui a une très grande taille, disons, et donc du coup c'est comme une antenne qui passe dans un champ électromagnétique, et donc il est soumis à une superposition de deux chats. Et après, vous regardez à la sortie, l'atome quand il sort, il n'est pas dans le même état qu'à l'entrée, il est dans une superposition d'état aussi, et vous pouvez mesurer cette superposition, et en mesurant cette superposition, vous voyez qu'elle a été influencée de façon cohérente, c'est-à-dire en gardant la superposition et pas de façon seulement probabiliste par la superposition des deux. Donc c'est une manip avec des mesures que vous faites, mais à la fin, vous comptez un nombre d'atomes. À la fin, vous avez des atomes qui arrivent dans des compteurs d'atomes, et c'est eux qui ont mesuré. Il faut, pour voir ces superpositions, il faut un objet qui soit, dans ce cas-là, microscopique pour arriver à sonder l'intérieur. Des objets trop macroscopiques comme nous seraient trop séparés en plusieurs réalités qui n'interagissent pas.
Bonsoir. Bonsoir. Greg Egan est un auteur australien qui a écrit des nouvelles sur la physique quantique.
Ah, quel est le nom, Greg ?
Greg Egan.
E-G-A-N ?
C'est ça.
D'accord, merci.
J'ai une question,
oui,
s'il vous plaît.
Allez.
Vous dites que c'est vertigineux, effectivement, on pressent une infinité de mondes superposés. C'est ça qu'il
oui,
faut comprendre. Mais ces mondes-là sont absolument inaccessibles à notre réalité, à nous. Donc, est-ce qu'ils tombent dans le domaine de la science ?
Tout à fait, ils sont scientifiques. C'est vrai que, mais votre position et la position de certains nombres de scientifiques, si je ne peux pas, par une manip, prouver l'existence de ce monde. Mais les expériences d'Aroche ont montré, et d'autres, ont montré que ce flou quantique de superposition ne s'arrête pas. C'est-à-dire, tous les gens qui ont essayé de dire, il existe un seul monde, et je vais introduire un mécanisme qui supprime la multiplication des mondes pour qu'il y ait à tout moment un seul monde. Là, il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de façon mathématique cohérente et cohérente avec l'expérience de faire ça. Donc du coup, la seule chose qui vous reste, c'est la description de la mécanique quantique qui vous dit qu'il y a une superposition de mondes. Ce n'est pas un choix. Après, philosophiquement, vous pouvez dire les autres mondes ne me sont pas accessibles, donc je fais comme s'ils n'existaient pas et vous pouvez vivre comme ça. Mais c'est aussi intéressant de penser que, et surtout pour le Big Bang, parce que tout ça, un des sujets actuels importants, c'est de comprendre l'origine de l'espace et du temps et de toute la structure de l'univers. Ce que l'on sait, c'est que, et Everett, c'était sa motivation, le début de l'univers, au sens habituel, était une superposition quantique. Et on est encore à la recherche de savoir si le bon état quantique, avec la bonne superposition, ne pourrait pas expliquer des choses sur notre monde. Et une partie a déjà été faite parce que les fluctuations du fond radiocosmologique de l'univers sont en accord avec la théorie quantique des fluctuations pendant l'inflation. Donc on sait déjà que les fluctuations qui ont donné lieu à notre galaxie et aux autres galaxies sont d'origine quantique.